Trump, anatomie d'une révolution.
Arrivé au pouvoir il y a plus de 10 ans, Donald Trump bouleverse les États-Unis et l'ordre mondial. Derrière le chaos apparent se dessine une idéologie structurée, portée par des penseurs encore méconnus en France, entre post-libéralisme et national-conservatisme.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Maya Kandel.
Épisode 5, 2025, la néo-réaction.
Notre ancien régime, comme l'aristocratie de la France pré-révolutionnaire, pensait que la fête ne finirait jamais. 2016 a ébranlé leur foi historiciste dans l'arc de l'univers moral. Mais en 2020, ils espéraient rejeter Trump comme une aberration. Rétrospectivement, c'est 2020 qui était l'aberration. L'action de l'arrière-garde d'un régime en difficulté et de son dirigeant sénile. Il n'y aura pas de restauration réactionnaire du passé pré-Internet. Peter Thiel, dans le Financial Times, en janvier 2025. On poursuit, Maya Kandel, notre réflexion. Là, on est dans l'idéologie pure, avec un homme important dans la galaxie idéologique trumpiste, Peter Thiel. Il faut revenir sur ce que j'ai lu, parce que il y a plein de choses intéressantes. L'idée que notre ancien régime, c'était le monde d'avant, on est dans un monde nouveau maintenant, que 2020, c'est l'aberration, que maintenant, on entre de plein pied dans un nouveau monde. D'abord, un mot quand même, qui est Peter Thiel? On commence à le savoir un peu, mais qui est Peter Thiel? Pourquoi il est important? Et de quoi parle-t-il ici?
Alors, je crois que là, ce qu'on entend, c'est quelque chose qui est commun à Thiel et à beaucoup de compagnons de route de Trump et du trumpisme. C'est cette vision de Trump comme agent du chaos et personnage tellement disruptif qu'il va pouvoir effectivement faire un changement de régime, qui est un peu, en effet, ce qu'on observe aux États-Unis après un an après le retour de Trump au pouvoir. Peter Thiel, c'est aussi effectivement une figure extrêmement importante, à la fois pour la droite américaine, pour la Silicon Valley et pour Trump et le trumpisme. Donc, pour le situer rapidement, c'est un des cofondateurs de PayPal, c'est aussi un des premiers investisseurs de Facebook, source principale de sa fortune, et c'est le créateur de la société Palantir, qui naît peu après les attentats du 11 septembre 2001 et qui, à l'époque, avec des algorithmes encore peu sophistiqués, propose ses services, en particulier à la CIA, c'est vraiment grâce à l'argent au départ de la CIA que Palantir se développe, propose des outils pour croiser et analyser des données venant de sources multiples. Voilà, pour faire très simple, aujourd'hui, Palantir est aussi ce qui propose des applications à ICE, la force de police de l'immigration, pour trouver des illégaux. C'est aussi, c'est un outil qui est intégré dans beaucoup d'administrations américaines et qui sert aussi au ciblage de drones pour des pays aussi variés que les États-Unis, le Japon et Israël. Voilà, pour situer le personnage. C'est aussi quelqu'un parmi les gros milliardaires de la Silicon Valley, c'est l'un des plus intellectuels peut-être. Il est resté très longtemps étudiant à Stanford. Il a écrit un livre dans les années 90 contre la diversité, qu'il appelait le mythe de la diversité. Donc on voit déjà un peu cette idée. L'autre point important, Thiel, donc, qui devient multimillionnaire, milliardaire dans la décennie 2000, a toujours financé des instituts, des revues, des causes ultra-conservatrices. Et il a aussi financé, créé presque, la carrière politique de J.D. Vance.
Oui, il a financé sa campagne sénatoriale dans l'Ohio en 2022.
Absolument. Donc, c'est un personnage important et c'est un personnage qu'on retrouve aussi chez ceux que j'ai appelés les intellectuels du trumpisme, les idéologues du trumpisme, donc qui s'organisent dès 2016, en fait.
Est-ce que je vous coupe, mais lui, il est le premier de la tech à suivre Trump dès 2016. On les a tous vus en 2024 derrière le président américain. Lui, c'est très tôt.
Oui, lui, Peter Thiel, parle à la convention républicaine en 2016 pour soutenir Trump. Il fait aussi son coming out à l'époque. Oui. Et effectivement, c'est important parce qu'à ce moment-là, on a encore cette image de la Silicon Valley comme
gauchiste.
Alors, il faut toujours préciser parce qu'en fait, la Silicon Valley, en termes de population, est toujours assez marquée à gauche. Le représentant de la Silicon Valley, Ro Khanna, est un des plus progressistes de la Chambre, des représentants au Congrès. Ouais. Donc, voilà. Mais on avait aussi cette image pour les chefs d'entreprise ou les grands investisseurs de la Silicon Valley. Et ça, c'est vraiment le grand changement entre 2016 et 2024, effectivement.
Et qu'est-ce que Thiel et les autres vont apporter idéologiquement à Trump 2. On a un peu enjambé sa victoire, mais campagne très particulière, escamotée avec un Joe Biden qui ne se présentera pas, avec une Kamala Harris qui n'a que quelques semaines pour se préparer. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail de cette campagne-là, mais le Trump 2 est transformé par rapport au Trump 1, aussi parce qu'il a un appareillage idéologique un peu différent. Qu'est-ce qui le distingue du premier, où on avait raconté que Bannon était vraiment là, le national-populisme? C'est quoi la différence avec ces gens-là?
Alors, la première chose, c'est que l'effort qui a commencé en 2016, très américain, de redéfinir en quelque sorte les idées fortes du Parti républicain et du mouvement conservateur à partir du nouveau socle électoral de Trump, ce mouvement n'a cessé de se développer, de se construire, de s'étoffer. Et on a un mouvement qui se crée, une fondation qui se crée, un mouvement qui se crée, le mouvement national conservateur, auquel il s'agrège, mais qui va englober progressivement de nombreux centres de réflexion, des courants parfois les plus extrémistes du mouvement conservateur et de la droite américaine, mais aussi, en 2022, ça c'est un point très important, la Fondation Heritage, qui est vraiment le poids lourd de ces instituts qui préparent le programme et le personnel pour les alternances politiques aux États-Unis. La Heritage joue ce rôle depuis les années 70, elle l'avait joué, c'est très connu, pour Reagan, mais elle le joue pour chaque nouvelle administration républicaine. Et en fait, le corpus idéologique, donc ce qu'on connaît comme le projet 2025, c'est ce fameux document qui s'appelle le Mandate for Leadership que la Fondation Heritage prépare tous les quatre ans pour le candidat républicain, éventuellement vainqueur, quel qu'il soit. Et donc, la Heritage travaille là-dessus avec le Mouvement National Conservateur, avec l'Institut Clermont, avec tout un tas d'instituts aussi nouveaux créés par des anciens de Trump 1, l'America First Policy Institute. Enfin voilà, il y a tout un tas de structures qui se créent en 2021. Donc la Heritage prépare un programme qui fera près de 1000 pages.
Alors mais... c'est quoi les grands axes de ce programme? Sachant que l'Heritage Foundation vraiment part du principe que le premier mandat était raté, parce qu'il n'était pas assez préparé, il faut préparer ce deuxième mandat. Alors c'est quoi les grandes lignes de force de ce projet 2025 qui est l'objet de beaucoup de fantasmes qu'on évoque souvent, mais que personne n'a vraiment lu, à part peut-être vous, si on doit retenir deux, trois axes idéologiques?
Alors, il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait, il y a un chapitre par sujet, mais...
L'esprit, alors le...
Non, mais par exemple, on voit, par exemple, le nouveau directeur de l'Agence fédérale des communications, la FCC, donc le nouveau directeur nommé par Trump, c'est celui qui a écrit le chapitre dans le projet 2025. Donc, il y a tout un laïus sur la liberté d'expression, sur le pouvoir des grandes plateformes. Bon, il y a des chapitres sur la famille, puisqu'évidemment, il y a aussi une conception traditionnaliste de la famille qu'on avait déjà à l'Institut Clermont, avec des conceptions très genrées du rôle de l'homme, de la femme, etc. En politique étrangère, on a l'assaut qu'on voit aujourd'hui contre les fondements de l'ordre international que les États-Unis ont construit et garanti depuis 1945. Puis il y a des chapitres beaucoup plus pointus, évidemment. Il y a tout sur le démantèlement de toute la politique climatique de Biden, le démantèlement de toutes les politiques qu'on appelle DEI, donc en faveur de
diversité,
inclusion, etc. Tous ces éléments que Trump a mis en œuvre dès son arrivée.
Mais est-ce que ça veut dire que Trump est le pantin de l'Heritage Foundation aujourd'hui, qu'il n'est finalement qu'un acteur qui joue un rôle écrit par d'autres ?
Non, je pense qu'en fait, Trump, il y a des sujets qui ne l'intéressent pas. Donc là, clairement, les gens qui ont été nommés font ce qu'ils veulent, avec les grandes lignes qui ont été données. Et puis... Non, Trump n'est pas un pantin. Bon, déjà parce qu'il y a des domaines, on a vu que l'expansion du pouvoir exécutif aux États-Unis au mépris de la Constitution, c'est quelque chose qui précède Trump mais qui porte un paroxysme. Et en politique étrangère en particulier, ou sur la politique commerciale, bon là on va voir ce que dit la Cour suprême, mais le président a quand même une très large marge de manœuvre.
Vous avez employé l'expression « néo-réaction ». C'est une formule un peu étrange, parce que c'est presque un pléonasme. La réaction appartient au passé, là c'est de la néo-réaction. Réaction à quoi d'abord? Et en quoi est-ce que c'est néo? Parce que s'il y a une néo-réaction, c'est qu'on imagine qu'il y a quelque chose qui doit remplacer ce qui existait.
Alors, je pense qu'il faut insister sur l'ambition vraiment révolutionnaire. Vous parlez de révolution Trump, c'est le titre de la série. Et je pense que c'est effectivement très important. Il y a vraiment cette idée, j'évoquais cette idée d'agent du chaos, de faire table rase d'un système et de reconstruire quelque chose d'autre. Kevin Roberts, le président de la Fondation Heritage, parlait de seconde révolution américaine. Les États-Unis sont nés par une révolution. Là, ce serait donc l'idée d'une renaissance pour éviter le déclin. qui est aussi oui. un thème qu'on entend beaucoup, alors qui est un thème classique de l'extrême droite, hein, mais que J.D. Vance aime beaucoup employer aussi, cette idée que Trump, cet agent du chaos, va pouvoir transformer les choses et éviter sinon un déclin qui paraissait inévitable des États-Unis en raison du wokisme ou des idées libérales, ou etc.
Mais donc il s'agit de revenir à un ordre nostalgique, passé, disparu, ou de créer un nouvel ordre. Où est-ce qu'on se situe là avec Trump ?
Alors, si on parle de Trump, bon, Trump, il a cette espèce de vision, le slogan MAGA, il y a une espèce de nostalgie des années 50 ou des années 80. Trump, c'est vraiment un homme des années oui. 80. Mais derrière lui, là, il y a, pour le coup, Trump n'est vraiment pas un idéologue, mais derrière lui, il y a des idéologues qui ont bien plus réfléchi à tout ça. J.D. Vance en est un bon exemple. J.D. Vance, lui, pour le coup, c'est un intellectuel. Oui. C'est quelqu'un qui est proche de tous ces milieux d'extrême droite qui cherchent à changer la manière dont les États-Unis fonctionnent. Il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a un aspect qu'on voit déjà mettre en œuvre et progresser, qui serait, en fait, de leur point de vue, les États-Unis ont évolué dans la mauvaise direction à partir des années 60-70. Il y a vraiment une volonté de contre-offensive juridique, c'est pour ça que ça passe notamment par les juges et oui. la Cour suprême, d'effacer l'héritage de la Cour Warren et de tous les acquis des années 60-70.
Dont l'avortement, par
exemple. L'avortement,
les droits civiques.
Les droits civiques, plus récemment le mariage homosexuel.
D'accord.
Tout ça, ça fait partie de leur combat. Après, il y a un élément beaucoup plus profond, j'évoquais l'Institut Clermont et ce côté fondamentaliste de la Constitution. Eux considèrent que les États-Unis, grâce au père fondateur, avaient un système de gouvernance parfait
ouais.
qui a été dévoyé à partir de la présidence Wilson, donc Woodrow Wilson, à la fois parce que pour eux, ça marque à la fois la volonté, même s'il faudra deux décennies de plus, d'une politique étrangère beaucoup plus interventionniste. Mmh. Et d'autre part, c'est vrai que la présidence Wilson, l'entrée en guerre des États-Unis
dans la Première Guerre mondiale,
Première Guerre mondiale, marque le début de l'expansion de ce qu'eux appellent l'État administratif, mais effectivement de la bureaucratie, d'un certain nombre d'agences. Ça se développe vraiment après la Seconde. Mais voilà, pour eux, Wilson est un espèce de némésis utile parce que il y a cet idéalisme chez Wilson avec les 14 points, etc. Et pour eux, c'est contre nature par rapport à l'intention des pères fondateurs et donc ce que doivent être les États-Unis.
Est-ce que c'est pour ça, et je finirai cet épisode avec cette question, est-ce que c'est pour ça que Trump a coché à ce point la date du 4 juillet 2026 dans son calendrier ? Ça sera le 250e anniversaire de 1776. C'est une date qui peut raconter beaucoup de choses du rapport à l'histoire et de l'idéologie de Trump II.
Oui, absolument, parce que s'il y a une comparaison pour l'instant, bon là on glisse vers clairement vers autre chose, mais au départ la meilleure comparaison c'est avec ce qu'on appelle la démocratie illibérale à la Orban, donc qui repose notamment sur le fait d'abord un combat contre la liberté d'expression des opposants politiques, particulièrement ironique de voir cette administration vouloir nous donner des leçons de liberté d'expression alors qu'eux la restreignent de manière inédite depuis le macartisme. Et puis, il y a aussi, évidemment, donc, les efforts contre les médias, contre le savoir en général, et un effort très important de réécriture de l'histoire qui a commencé à la fin du premier mandat Trump. Mais là, évidemment, il est tellement heureux d'avoir cette chance de présider au moment du 250e anniversaire.
Réécriture de l'histoire, réécriture aussi de la grammaire de l'ordre mondial, ça sera l'objet de notre dernier épisode. Trump, Anatomie d'une révolution, est un podcast original de France Inter.